Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes confortablement installés chez vous. C'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Et au-delà du petit problème de voix, je dois m'excuser car j'ai aussi subi une petite opération qui fait que je zozote un peu comme vous pouvez peut-être l'entendre. Donc mille pardons. Mais comme vous le savez, cette émission c'est la vôtre, c'est celle de ceux qui vont composer le 39-21 ce soir et qui vont nous écrire au 7-39-21. Donc, votre libre antenne, vous le savez, c'est vous qui la faites, chers amis, comme tous les jours de 23h à 1h du matin. Et sans plus tarder, votre libre antenne du mercredi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Élodie au 39-21. Bonsoir, Élodie.
Bonsoir.
Bonsoir, d'où nous appelez-vous Élodie et quel âge avez-vous?
Alors, je vous appelle de Franche-Comté et j'ai 26 ans.
D'accord. De quoi voulez-vous nous parler? Dites-moi.
Alors, ce soir, j'aimerais vous parler du laxisme judiciaire et plus précisément, dans mon cas, des agressions sexuelles.
D'accord. On va voir que vous avez écrit un livre par rapport à tout ça.
Tout à fait.
Mais d'abord, vous allez nous raconter votre histoire.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 5 ans, j'ai été agressée sexuellement, donc violée sur mon lieu de travail. Dans le cadre de mes études, j'étais en BTS en alternance et j'ai été effectivement violée par un collègue à cette époque. Donc suite à ça, j'ai vraiment tout perdu et de là, en découle mon
collègue,
livre, effectivement.
Un collègue
tout à fait.
Vous n'étiez pas étudiante à ce moment-là?
J'étais étudiante, donc j'avais à la fois les cours à l'école et j'avais aussi un travail en alternance pour payer mes études.
D'accord. Donc c'est un collègue que vous connaissiez?
Tout à fait.
Et en fait, il a profité d'une situation particulière pour vous approcher. Vous ne vous méfiez pas de lui ou finalement il vous guette sans rentrer dans les détails bien évidemment, mais est-ce que ce prédateur, en fait, était quelqu'un avec qui vous n'aviez pas vu la chose venir, quoi? Est-ce qu'il se comportait de manière sympathique avec vous avant?
Alors oui, il se comportait de façon très sympathique. Et effectivement, il a profité de ma période de vulnérabilité, pardon. J'étais jeune à l'époque, donc j'étais toute seule, ma famille était loin et j'étais assez fragile.
Oui.
Et il a profité du fait que j'étais très timide, peu sûre de moi, que vu qu'il était très proche aussi des patrons, forcément, il avait plus de poids que moi dans l'entreprise et il en a énormément profité. Au début, c'était surtout des attouchements et j'étais quand même loin de me douter qu'il finirait par passer à l'acte. On s'imagine toujours que c'est que des gestes, que ça n'ira pas plus loin jusqu'au fameux jour où on se réveille un matin et que ça nous tombe dessus sans y avoir songé à l'avance.
D'accord. Je suppose que c'est un choc énorme. Vous en parlez un petit peu autour de vous. Vous en ouvrez à des amis ou en tout cas à des proches quand ça arrive?
Alors sur l'instant, non. C'est plutôt la culpabilité, c'est un sentiment de honte, c'est beaucoup de sentiments négatifs. On ne se rend pas vraiment compte de ce qui vient de se passer. C'est beaucoup de déni. Et j'ai eu la chance d'avoir été écoutée à l'époque par ma cousine, qui est celle qui a forcément mis ce mot viol, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était grave. Et au début, je voulais vraiment pas en parler, et finalement, j'ai fini par en parler à ma maman un soir où j'étais vraiment chamboulée, et c'est elle qui a été la première à comprendre vraiment l'ampleur, et j'en ai tout de suite parlé à mes parents. Mais c'est vrai qu'au début, pour l'annoncer aux proches, c'est pas évident, on a toujours peur des réactions. Il faut aussi s'approprier ça nous-mêmes. C'est très compliqué d'en parler.
Oui, je suppose. J'ai cru comprendre que dans cette alternance donc d'études et en entreprise et dans votre BTS, votre patronne, vous avez mis en garde par rapport à cet homme. Il avait déjà une réputation particulière ?
Oui. Il avait clairement la réputation d'être un loup, comme elle le disait si bien. Donc il m'avait mis en garde contre lui.
D'accord, carrément.
Voilà, carrément un loup, c'est ça. C'est le mot qui revenait très souvent.
Durant cette agression, je sais que on va en parler ensuite, puisque elle va bien évidemment énormément vous marquer, ce viol. Mais vous avez eu peur de mourir aussi.
Oui.
Il a été menaçant, il a été... vous pensez qu'à un moment, ça lui a traversé la tête ?
Je ne peux pas dire menaçant, mais il avait une emprise sur moi que malgré que je me débattais, que je criais, que je suppliais, il ne m'écoutait pas. C'est comme si en fait, je n'étais pas là, qu'il ne m'entendait pas. Et pourtant, j'ai hurlé, j'ai supplié, j'ai pleuré, mais non. Il n'a pas été menaçant, mais il a été très brusque.
Très brusque, d'accord. Le lendemain, donc, vous en parlez à votre mère. Elle va en parler à votre père, à votre mère ?
Oui, tout à fait, oui. Elle va le mettre au courant tout de suite dans la foulée pour lui expliquer pourquoi je suis en pleurs, pourquoi elle-même a du mal à contenir ses émotions. Enfin, il ne comprenait pas pourquoi on était dans cet état et on a fini par lui en parler. Et passé la colère, c'est lui qui nous a conseillé d'appeler la police. Évidemment, ils m'ont demandé mon accord. Ils m'ont dit que j'avais un choix à faire. C'était soit de me taire et de continuer à subir dans cette entreprise, de vivre avec ça toute ma vie, ou alors d'avoir le choix de parler, de dénoncer ce crime, de reprendre les choses en main et de me battre jusqu'au bout pour le faire condamner.
D'accord.
J'ai pris la décision de dénoncer.
D'accord. Vous avez donc comment ça s'est passé ? Vous avez appelé la police ou vous êtes déplacé ?
On les a appelés. C'était dans la soirée. Ils sont tout de suite venus. Malheureusement, ils pouvaient pas prendre la plainte tout de suite. Il fallait y aller le lendemain. Donc ils m'ont conseillé de garder forcément mes vêtements et de revenir très tôt le lendemain matin. Et finalement, ça a duré la journée entière.
D'accord. Comment ça s'est passé là-bas ?
Alors, l'entretien, j'ai eu la chance de tomber sur deux femmes très compréhensives qui ont pris ma plainte, qui m'ont entendue, qui me croyaient, qui ne me jugeaient pas. Et ça, je leur suis vraiment très reconnaissante. Mmh. Elles ont très bien fait leur travail. Vraiment, elles ont été d'un grand soutien. Je me suis sentie comprise. Elles m'ont effectivement tout expliqué, qu'il faudrait que je voie un psychologue qui déterminerait si je suis sincère ou non, qu'il fallait que je fasse des examens. Avant tout bien expliqué, et c'est vrai que c'était très rude, il y a eu beaucoup de questions très, très intimes.
Oui, je suppose.
C'était compliqué.
De toute façon, si on vous a demandé de garder vos vêtements, c'était pour prélever son ADN.
Tout à fait.
Donc, ça a été très vite prouvé que cet agresseur, vous avez en tout cas touché, approché.
Oui, avec toutes les preuves, oui, bien sûr.
Comment ça se passe ensuite, vous, dans votre tête, les jours suivants ?
Ah, c'est l'enfer, c'est la descente aux enfers, il n'y a pas d'autre mot. C'est les insomnies, les nuits très longues, les pleurs, l'envie de mourir, on n'a plus envie d'être jolie, on n'a plus envie de se coiffer, on n'a plus envie de manger, on broie du noir, clairement, on a du mal à parler, à rigoler, on se sent même coupable si on a envie de rire parce que quelqu'un fait une blague à côté de nous, on se dit « ah bah non, il ne faut pas que je rigole ». C'est vraiment tortueux comme expérience parce qu'on se dit « je suis la victime, mais je n'ai pas le droit d'être heureuse, je n'ai plus le droit ». Il faut faire attention à tout ce qu'on fait, on vit dans la crainte, on a peur que ça nous retombe dessus. C'est très compliqué, vraiment.
Alors, dans votre histoire, ce qui est particulier, Élodie, c'est qu'il va y avoir pas mal de couacs avec la justice et d'abord avec les gendarmes.
Tout à fait.
Racontez-nous ce qui s'est passé.
Alors, ce qui est étonnant, c'est... déjà la lenteur, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si long, même si on m'avait dit que ça risquait de me prendre du temps, je pensais que ça serait plutôt en jours et non pas en semaines, voire des mois, même finalement des années. Donc c'était là la première des déceptions, je pensais que j'allais être protégée et finalement au fil des jours je me suis aperçue que j'allais pas du tout être protégée, que j'allais devoir me justifier de tout, que je devais tout prouver, enfin vraiment j'avais le sentiment que c'était moi la coupable et que je devais prouver que c'est pas moi qui avais agressé l'autre personne.
Oui.
Donc première des déceptions et forcément à côté de ça je perds tout, Je perds mon logement, je perds mes études, mes amis, mon compagnon de l'époque. C'est vraiment ma vie qui s'écroule devant moi.
Je crois savoir que dans les premiers temps, vous l'avez indiqué même, des personnes susceptibles de pouvoir témoigner.
Oui.
Je crois qu'il y avait des caméras de surveillance aussi sur les lieux de l'agression. Or, ce qui est carrément étonnant, c'est que les gendarmes ne vont entendre personne et ne pas demander les bandes vidéo.
C'est ça. Oui, vraiment, il n'y a rien qui a été fait.
Comment ils vous ont, vous leur avez posé la question? Pourquoi ça s'est fait passer comme ça?
Quand je posais des questions, j'avais l'impression que ça dérangeait, que c'était pas à moi de poser les questions, c'est assez étrange. Mais c'était eux qui devaient mener leur enquête et même si je l'ai harcelé autant l'avocate que eux, je les appelais souvent pour savoir où ça en était, mais j'avais vraiment le sentiment de déranger, de pas devoir poser de questions. Et non, on m'a juste dit que c'était les procédures, que ça prenait du temps, que c'était normal. Enfin, ça ne l'est pas pour moi, mais pour eux, apparemment, c'était normal.
Alors, des procédures qui durent longtemps, on vous explique que ça dure longtemps, mais il va falloir nous expliquer aussi, à nous, citoyens, comment, dans une affaire criminelle, puisque un viol, c'est une affaire criminelle, pourquoi on n'entend pas les témoins, pourquoi on ne saisit pas les bandes qui sont susceptibles d'incriminer directement le violeur. Moi, j'ai tout simplement l'impression d'un boulot bâclé, voire pas fait, ou alors fait à 10% ou 20%.
Oui, et c'est le sentiment que j'ai aussi.
Mais oui, et si je rappelle ça ce soir, sur cette antenne, c'est que nous avons eu, avant vous, Élodie, d'autres femmes ayant subi des viols et ayant affronté la même attitude de la part des gendarmes ou des policiers. Et puis surtout, après, attendre des années et des années. Alors, vous allez nous raconter, mais visiblement, pour vous, ça a été la même chose.
Tout à fait. C'est attendre pendant des années, c'est ça.
Combien de temps avez-vous attendu?
Alors, moi, j'ai attendu 2 ans avant de savoir que la plainte était classée sans suite. Et au bout de ces 2 ans, j'ai décidé, moi, de reconstruire ma vie parce que je me suis dit que j'avais le droit de reprendre ma vie en main sans plus attendre de la justice une réparation que je n'aurais jamais. J'ai perdu foi en la justice à ce moment-là. Et j'ai décidé, moi, de laisser cette affaire. Je me suis dit que la vérité éclaterait finalement autrement que par la justice, de faire ma propre vérité toute seule, mais sans plus croire en la justice, malheureusement, qui ne m'a pas été de mon côté. J'ai décidé d'avancer autrement.
Ça veut dire que vous êtes en train de nous expliquer que vous avez donc été violée sur le lieu de votre travail, qu'il y avait des caméras, qu'il y avait des caméras qui pouvaient prouver tout un tas en tout cas d'indices concordants, l'ADN de votre violeur. Est-ce qu'il y a eu l'ADN de son sperme de quelque part?
Ça, je ne sais pas. On ne m'a pas donné de réponse.
D'accord. Mais est-ce que vous avez souvenir qu'il vous a agressé jusqu'au bout, cet homme?
Oui.
D'accord. Donc, il y a eu obligatoirement... En tout cas, si le boulot avait été fait...
Oui.
C'est quand même dingue.
C'est quand même dingue, surtout que c'était effectivement quelqu'un qui était déjà connu des services de police, donc double déception, encore plus.
C'est fou. C'est fou parce que vous voyez, sur cette antenne, on a évoqué l'histoire les histoires qui ressemblent à la vôtre, mais on a évoqué une histoire qui a beaucoup ému la France il y a quelques semaines, qui est l'histoire de cette petite mineure Océane, en tout cas agressée quand elle était mineure, violée quand elle était mineure, à plusieurs reprises par différentes personnes, et qui a fini par mettre fin à ses jours, parce qu'en France, ben visiblement, c'est à la victime de prouver, mais alors de prouver par A plus B, qu'elle a été agressée et violée. C'est quand même totalement dingue.
C'est aberrant. C'est clairement ça, mais c'est aberrant, c'est même pas tolérable.
Et vous êtes en train de nous dire donc que l'agresseur, votre violeur, n'a jamais été inquiété par la police?
Non, jamais.
Donc ça veut dire que finalement, si on en reste là, c'est la porte ouverte pour cet homme à recommencer?
Bien sûr.
Votre patronne, quand tout ça s'est passé, quelle a été son attitude à elle? Elle a été mise au courant?
Oui. Oui, c'est moi qui ai voulu la mettre au courant parce que j'avais une relation assez forte avec elle. Et j'ai décidé de lui faire confiance, donc je lui ai envoyé un message sans préciser qui était cette personne, mais juste pour lui dire ce qui m'était arrivé et le pourquoi de mon absence. Et au début, elle me croyait, mais quand elle a su qui était mon violeur, là, elle ne me croyait plus du tout.
Mais je croyais qu'elle vous avait mis en garde contre cet homme.
Bah, c'est ça qui est incompréhensible, c'est que tout le monde me mettait en garde, mais pourtant, on ne me croyait plus et c'était moi la mauvaise fille dans l'histoire. C'était moi la nymphomane, c'était moi...
Incroyable.
Ouais, oui. J'en ai vu des vertes et des pas mûres.
Mais oui, ma pauvre. Lorsque vous dites que vous avez décidé à un moment de mettre tout de côté, c'est-à-dire vous avez abandonné les poursuites, en gros?
Quand j'ai su que la plainte était classée sans suite, oui. J'ai perdu clairement foi en la justice et je me suis dit que je savais que c'était vrai, que j'avais ma vérité pour moi, mais que je ne pouvais plus rien attendre de la justice puisque clairement, elle n'en avait rien à faire, si je peux dire ça comme
d'accord,
ça.
D'accord.
Je ne me sentais pas soutenue.
Ce soir,
donc,
vous pouvez nous dire ce soir où tout ça a eu lieu, dans quel, qui s'est occupé de ça, la gendarmerie, d'où, où vous n'avez pas cette colère qui vous pousse à au moins dire où ça s'est passé, tout ça
Oui, c'était dans le sud de la France. Après, bien évidemment, c'est vrai que je me protège aussi. J'ai peur aussi de quelques réactions. Donc je me protège pour pas trop en dire. Mais oui, c'était effectivement dans le sud de la France.
Dans quel cadre professionnel, dans quel type de cadre ça s'est déroulé?
Alors moi, j'étais en BTS assistante de gestion à l'époque.
D'accord, donc ça s'est déroulé dans des bureaux.
Oui, c'est ça.
D'accord. On va faire une petite pause, Élodie, d'accord?
Oui.
Vous restez avec moi et on va continuer à échanger ensemble, à tout de suite.
D'accord.
La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21.
75 centimes plus coût du SMS.
Il est 23h27, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne. Élodie, au bout de 2 ans, vous apprenez donc que la plainte est classée sans suite par le procureur, donc. Vous n'avez pas envie de faire appel à ce moment-là?
Ça m'a traversé l'esprit. J'ai eu effectivement un élan de colère, d'injustice qui m'a poussée à vouloir aller jusqu'au bout. Et finalement, je me suis rendu compte que ça risquait de prendre encore des années et je ne voulais plus revivre ça sans cesse. C'était déjà tellement traumatisant que je me suis dit, il faut que je reprenne ma vie en main. J'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de voir le bout du tunnel, donc tant pis.
Oui, finalement, c'était arrêter de baigner dans cette guerre, hein, puisque c'est une guerre qu'on livre, qui vous empoisonnait, qui vous empêchait d'avancer.
Oui.
Ça n'a pas dû être facile, tout ça.
Non, ça l'est toujours pas à l'heure actuelle. Forcément, ça laisse des traces. J'ai bien repris ma vie en main, effectivement, mais je ne pourrai jamais oublier ce qui s'est passé.
Comment aujourd'hui, vous y pensez? Est-ce que ça revient dans votre vie régulièrement, ce qui s'est passé?
Oui, bien sûr. Il y a des cauchemars, il y a des craintes, des angoisses. Ça revient comme des flashbacks au beau milieu de la journée. Oui, bien sûr, je ne pourrai jamais oublier.
Quel impact ça a eu sur vous, Loli, en tant que femme? Vous me dites que vous avez retrouvé l'amour aujourd'hui. Comment ça s'est passé, ça? Est-ce que ça a été facile ou ça a été compliqué?
Non. Ça a été très compliqué. C'était un long chemin semé d'embûches. Déjà, reprendre son identité, se refaire confiance, ne plus culpabiliser. J'ai eu cette période où j'ai voulu mettre fin à mes jours. Et au moment de passer à l'acte, une petite voix est arrivée dans ma tête en me disant « Non, Élodie, si tu fais ça, tu ne pourras jamais aider d'autres personnes. Ça sera fini pour de bon. » Alors que j'avais encore tellement de belles choses à vivre. Et j'ai décidé de me laisser une seconde chance, de voir ce que la vie avait à m'offrir, si c'était un peu plus positif que tout ce que j'avais déjà vécu. Et heureusement, ça a été le cas. Donc, je suis heureuse aujourd'hui de ne pas être passée à l'acte. Mais c'est vrai que ça a été compliqué pendant toutes ces années.
Non, mais il est certain que... Alors, décider ça, c'est une chose. Mais arriver à le mettre en pratique, c'en est une autre. Vous avez fait preuve d'une force de caractère quand même.
Je ne sais pas si c'est une force de caractère ou si c'était un élan de survie, je ne sais pas du tout, mais je me suis donné comme mission d'essayer d'aider le plus de victimes possible. Donc de là est venue l'idée d'écrire un livre justement pour dénoncer tout ce laxisme et pour aider les autres victimes ou leurs proches, parce que malheureusement, il n'y a pas que les victimes qui en souffrent, il y a aussi l'entourage, il y a les proches, il y a la famille, les amis. C'est vraiment pas simple pour tout le monde.
Et
si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, ça sera déjà une belle victoire pour moi.
Mais votre père, comment a-t-il réagi à tout ça ?
Ah, il a été très en colère. Très en colère,
Il n'a jamais été tenté d'aller à... Lorsqu'il a appris que tout ça était... Enfin, que votre dossier était classé, il n'a jamais eu l'idée d'aller dire deux mots à cet agresseur ?
C'est pas l'envie qui en manquait à ma famille, effectivement. Mais j'ai supplié qu'on ne se mette pas en danger, nous, qu'on ne m'abandonne pas, parce que malheureusement, si quelqu'un s'en prenait à cette personne, ça risquait encore de nous retomber dessus, et je voulais pas prendre le risque que quelqu'un de mon entourage aille en prison ou ait des représailles alors que c'était pas de sa faute. Donc non, j'ai fait des pieds et des mains pour qu'on reste à notre place et qu'on ne fasse rien.
C'est encore ce soir l'histoire d'Élodie, votre histoire, Élodie, c'est encore une histoire qui aurait très, très bien pu très mal finir.
Oui.
Ça s'est mal fini pour Océane, comme ça c'est mal fini pour tout un tas de victimes qui n'ont jamais été entendues, jamais crues, parce que finalement, au bout du compte, comment est-ce que vous prenez tout ce qui s'est passé ? Est-ce que vous vous dites, finalement... On ne m'a pas cru ? On a cru que quoi ? Que je mentais ?
Oui.
C'est ça ?
Oui, c'est clairement ça. Oui, on a l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être protégé. Alors, on nous pousse à parler, évidemment. Il y a des affiches publicitaires, il y a des slogans, il y a plein de mouvements en place. Alors oui, on nous dit de parler, c'est bien beau. On veut bien parler quand on arrive à trouver le courage de le faire, mais quand malheureusement, on n'est ni protégé, ni accompagné, ni cru... pour moi, c'est vraiment du pipi de chat de dire oui, venez parler, on va vous entendre. Non, c'est pas vrai. Il faut mettre des choses en place pour que ça soit vrai, mais sinon, non.
Je suis en train de m'imaginer, parce que j'ai échangé avec un de mon meilleur ami il y a une semaine déjà, puisque nous avons eu la maman d'une jeune fille autiste qui a été violée à plusieurs reprises, on en parlait tous les deux, et on se disait, mais que ça nous serait impossible de rester sans rien faire. C'est... Parce qu'à partir du moment où la justice ne bouge pas, je trouve que c'est une très grande force de caractère de votre part, bien sûr, mais aussi de la part de votre père, et bien évidemment de votre mère aussi. Vous avez partagé... cette épreuve avec votre homme,
avec mon compagnon de l'époque,
oui.
Actuellement
aujourd'hui,
oui.
Celui qui partage votre vie aujourd'hui.
Oui, il est au courant de tout.
D'accord. C'était nécessaire pour vous de qu'il sache ça.
Oui, c'est une partie intégrante de ma vie et pour me connaître, il fallait qu'il soit au courant de ça pour comprendre pourquoi j'avais des craintes, des angoisses, pourquoi par moments j'avais des cauchemars, pourquoi je me mettais à pleurer pour rien. Il fallait qu'il comprenne mon histoire pour comprendre pourquoi je suis telle que je suis à l'heure actuelle.
D'accord, parce que vous avez été, on sans doute, fortement impacté par ce viol. Qu'est-ce qui a changé en vous aujourd'hui, depuis cette épreuve ?
Alors aujourd'hui, j'ai compris qu'on peut s'en remettre avec la volonté. Il y a beaucoup de belles choses qui nous attendent, même si tout nous semble sombre à un moment donné. Il y a toujours cette lumière au bout du tunnel. Il ne faut pas baisser les bras, on a le droit de vivre comme tout le monde. Et je me suis dit que je n'allais pas... arrêter de vivre, moi, pour une personne qui m'a fait du mal. Et si cette personne a le droit de vivre, pourquoi pas moi ?
On va conclure, mais j'ai encore une question à vous poser sur cet homme. Quel profil avait votre agresseur ?
Au premier abord, on ne se douterait pas. Enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment des indices, mais on ne pourrait pas croire qu'il serait capable de ça. Enfin, même
non,
si on nous met en garde,
c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est... c'est un père de famille, c'est quelqu'un qui faisait quoi comme type de travail? Est-ce qu'il était cadre? Est-ce qu'il était marié? Enfin, vous voyez, c'était quelqu'un qui se présentait en société comme étant quelqu'un de totalement équilibré, normal. Quelle personnalité avait-il?
Quelqu'un de jovial, d'amusant, qui rigole avec tout le monde, qui avait une compagne. Une bonne personne. Au premier regard, une personne gentille.
D'accord. Il a été entendu par la police, cet homme?
Il me semble, oui.
Oui, d'accord. Vous avez écrit donc...
J'ai eu une confrontation.
Et vous avez eu une confrontation où il a tout nié?
Oui. Ah, bien sûr. C'était même moi la coupable.
D'accord. C'est vous qui aviez provoqué cette situation?
Oui. Ah oui, c'est moi qui avais tout cherché.
Il reconnaissait donc l'acte sexuel, c'est ça?
C'est ça.
Mais en disant que vous étiez consentante et que vous l'aviez provoqué?
Que c'était même moi qui l'avais cherché, oui, tout
d'accord.
À fait.
C'est fou hein, que des gendarmes tombent encore dans le panneau. C'est dingue.
Oui, je comprends pas. Est-ce qu'ils tombent vraiment dans le panneau ou est-ce qu'ils ont des directives ou je sais pas.
Ils n'ont pas de directives. Je pense que le problème, c'est un problème de formation. C'est, malheureusement, vous avez des gendarmes beaucoup plus formés que ça et je pense que votre agresseur aurait passé un sale quart d'heure. Or, dans l'histoire que vous nous racontez, on a l'impression que rien de tout ça ne s'est passé, malheureusement.
Non, ça c'est vrai.
Vous avez écrit donc ce livre aux éditions Bookelis. Hein, B2OKELIS, Violé et après. Pourquoi avoir écrit ce livre, vous qui vouliez passer à autre chose? Qu'est-ce qu'il veut dire ce livre? Quel sens il a pour vous?
Alors c'était nécessaire d'écrire pour raconter mon histoire. Il y a l'envers du décor, il y a effectivement le avant, le pendant et le après. Et c'était vraiment pour dénoncer tout ce laxisme judiciaire et pour montrer qu'on peut s'en remettre, que même si c'est compliqué, on peut parler de notre histoire sans pour autant que ça nous définisse. Oui, on est une victime, mais on n'est pas qu'une victime, on est aussi une personne, on a le droit d'être heureuse. Et s'il faut dénoncer, s'il faut ne serait-ce toujours qu'en parler tous les jours, c'est comme ça, il faut en parler, il ne faut pas avoir honte, il faut reprendre sa vie en main et se dire que même si la justice ne nous entend pas, il y a forcément une personne qui nous entendra et croire en nous. Et si j'ai pu aider une personne avec ce livre, soit en dénonçant, soit en montrant qu'il y a un après, c'est une belle victoire pour moi. C'était pour accompagner les autres victimes.
Mmh. Quel est votre espoir aujourd'hui par rapport à ce qui vous est arrivé?
Alors l'espoir, ça serait que la justice change, même si je sais que ça ne se fera pas en un claquement de doigts, mais que les victimes soient vraiment reconnues et entendues pour de bon, qu'on mette vraiment des choses en place. Et pour moi, si mon dossier est réouvert un jour, tant mieux. Mais sinon, je ne me fais pas de faux espoirs.
Votre dossier ne peut être rouvert que si ce prédateur recommence et que là, pour le coup, on le prend la main dans le sac, en fait.
Oui, d'accord. Je pense.
Votre bouquin, je le rappelle, s'appelle « Violé et après », c'est aux éditions Bookelis. Merci mille fois, Elodie, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Bonne soirée, bonne nuit et
bravo.
Bonne
soirée, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.